C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, rencontre au sommet. Victoria et Eugénie, Albert et Louis, une amitié qui naît et traversera les années. Avec le mois d'avril, survint une invitation pour les souverains à se rendre à la cour de Londres pour y être reçus par la reine Victoria et le prince Albert. Au château de Windsor, l'empereur va charmer la reine. Les deux couples s'entendent à merveille et bal, visite du Crystal Palace, réunion de guerre se succèdent, l'empereur se voyant décerner l'ordre de la jarretière. Une grande et indéfectible amitié naît entre la reine de 36 ans et l'impératrice âgée de 29 ans. Amitié qui donne lieu à une correspondance suivie. Le couple impérial, ayant demandé conseil à la reine Victoria en matière de conception, la souveraine conseilla simplement à Eugénie de placer un coussin sous ses reins, conseil qui fut suivi et qui permit à l'impératrice d'annoncer enfin 2 mois plus tard qu'elle était enceinte. S'ensuit une visite à Paris du couple royal britannique en août 1855. Ce n'était pas une première pour le couple royal, qui avait été reçu par Louis-Philippe par 2 fois en 1843 et 1845 au château d'Eu, propriété normande de la famille d'Orléans. Réception à l'hôtel de ville et aux Tuileries, arrêt face au tombeau de Napoléon Ier, mais aussi déambulation au Salon des Beaux-Arts et à l'Exposition universelle. L'empereur est un fervent supporter de la science et de l'industrie, un protecteur des arts. L'exposition est inaugurée le 15 mai 1855 par un temps froid et pluvieux. Elle fait suite à la première exposition universelle qui s'est tenue en 1851 à Londres au Crystal Palace. Par décret impérial du 8 mars 1853, il a été décidé d'y exposer nos produits agricoles et industriels ainsi que ceux de toutes les nations. L'idée reprend ces célébrations de l'industrie française inaugurées en 1798 et répété à 10 reprises de 1801 à 1849. Toutefois, alors qu'en 1849 la vocation internationale avait été torpillée par les industriels français craintifs par rapport à la concurrence, et que l'Angleterre nous avait grillé avec son exposition de 1851 et ce Crystal Palace tout esprit construit pour la circonstance, en 1855 la France s'ouvre à son tour au monde. Il était temps. Dublin, la Nouvelle-Orléans, Munich et New York nous avaient précédés. C'est une commission impériale dirigée par le prince Jérôme Napoléon, alias Plomplom, qui est en charge de la gestion de l'exposition. Du 15 mai au 15 novembre, pas moins de 5 100 000 visiteurs vont en arpenter les pavillons, puis déambuler sur plus de 15 hectares parmi près de 24 000 exposants. En parallèle, se déroule une exposition des Beaux-Arts dans un palais des Beaux-Arts édifié avenue Montaigne, et c'est Plomplom, réputé pour ses idées avancées, qui en a la charge. Les œuvres artistiques classées par catégorie reçoivent des récompenses. On a édifié un palais de l'industrie à la charpente métallique impressionnante de l'intérieur, mais camouflé à l'extérieur par une enveloppe de maçonnerie hideuse, malgré ses 408 fenêtres, Et comme l'édifice monstrueux était trop petit pour accueillir tous les exposants, on lui adjoint une galerie des machines et entre les deux, on utilisa une rotonde dite de panorama qui avait été édifiée pour admirer la bataille d'Eylau, puis on relia tout cela par des galeries. Alors que les 40 années de paix européenne ont pris fin, en pleine guerre de Crimée, et alors que des émeutes éclatent en Espagne, la volonté impériale est de marquer les esprits par une célébration des meilleures créations et production mondiale dans un pays en pleine révolution industrielle et architecturale. Paris se couvre de nouvelles églises, la Madeleine, Sainte-Clotilde, Notre-Dame de Lorette, le Panthéon, qui redevient Sainte-Geneviève, l'ancienne place de Grève, devenue place de l'Hôtel de Ville, lequel est relié à la Concorde par la percée de la rue de Rivoli, tandis que le végétal triomphe au bois de Boulogne par des milliers d'arbres fraîchement plantés. Car Napoléon III va mener une politique horticole audacieuse avec la plantation de milliers d'arbres le long des routes et des chemins, accompagnée de pépinières publiques destinées à acclimater, sélectionner et distribuer les semis. Il participera aussi à l'implantation de séquoias sur notre territoire. La ville de Paris va changer de visage. Son centre, aux rues d'une autre époque, ne permet plus la circulation des plus de 60 000 attelages, Et de plus, les plus pauvres s'y entassent sans hygiène, puisque l'étroitesse des voies de circulation et la hauteur des habitations ne permettent pas l'évacuation des miasmes. La densité de population qui atteint un habitant pour 3 mètres carrés, la promiscuité qui voit 23 personnes s'entasser dans une chambre de 5 mètres carrés, île de la Cité, tout cela favorise les épidémies et on constate que sur 7 petits-enfants, 6 viennent à décéder.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Où est passé Paris ma rose? Paris sur Seine l'a bouclé. Sont partis en portant la clé, les nonchalants du long des quais. Paris ma rose, où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé, Genin l'avenue? Et le chemin vert qu'est-il devenu, lui qui serpentait près de la Bastille? Où est passé Paris la grise, Paris sur brume la mouillée? Les partis, Paris l'oubli est parti sur la pointe des pieds. Paris la grise, où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les murailles et les graffitis? Ces soleils de craie, où sont-ils partis qui faisaient l'amour au mur des églises? Où est passé Paris la rouge, la commune des sans-souliers? C'est perdu vers Aubervilliers, ou vers Nanterre, l'embourbé, Paris la rouge. Où est-il passé Clément des cerises? Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on ne voyait que lui au trou des chemises? Où est passé Paris que j'aime? Paris que j'aime et qui n'est plus.
On va y remédier et moderniser la capitale, tandis que Londres, sa rivale, qui a multiplié parcs, réseaux d'assainissement, monuments et réalisations techniques, et qui s'enorgueillit de théâtres et grands hôtels, reste prisonnière de sa pollution et de ses brouillards jaunâtres si souvent évoqués par Conan Doyle dans ce fameux East End où se côtoient misère, prostitution et travail forcé des enfants. Un univers à la Dickens que Paul Féval a dépeint dans Les Mystères de Londres. Se remémorant son essai sur la disparition du paupérisme, l'empereur achètera avec ses fonds 18 000 mètres carrés pour y édifier les ancêtres des HLM. Il fera construire 86 logements sociaux, cité Rochechouart, afin d'y abriter une population dont les taudis ont été rasés. En juin 1853, alors qu'il recevait au château de Saint-Cloud le baron Haussmann, nouveau préfet de la Seine, afin de lui faire prêter serment, Napoléon III lui fait admirer dans son cabinet une carte de Paris où les futures voies sont tracées en bleu, rouge ou vert, suivant l'urgence de leur réalisation à venir. La ligne de chemin de fer de la Petite Ceinture, le percement du boulevard de Strasbourg sont déjà d'actualité, prévus par décret. Il faut embellir la capitale et redonner une fierté aux Parisiens, dont 250 sont tombés lors du coup d'État. On va leur offrir les Halles de Baltard, le percement de l'avenue de l'Impératrice, future avenue Foch. Les projets de Napoléon seront menés à bien par Haussmann, qui allie la créativité et la force de caractère. Des embarcadères, des gares, et la fameuse croisée de Paris qui voit démolies des milliers de constructions historiques familières aux lecteurs des Mystères de Paris de Eugène Sue. Après les hors-d'œuvre, vient le plat de résistance. La construction du Grand Paris, par l'ajout des communes périphériques situées entre la barrière d'octroi des fermiers généraux et les fortifications de Thiers, le tout pris par un décret d'annexion en 1859, tout en accordant 7 années de délai fiscal d'adaptation aux entreprises qui y sont situées. Par ce biais, la capitale double de superficie et se retrouve comptée 1 700 000 habitants. 12 communes sont avalées, 10 autres amputées, 8 nouveaux arrondissements rejoignent les 12 historiques. On conserve également une bande de terrain de 250 mètres de large au-delà des fortifications de Thiers, bande qui accueillera bien plus tard le périphérique. Afin que l'harmonie soit complète, on va réglementer la hauteur des immeubles, la couleur de leurs pierres comme celle des pots de cheminée, l'alignement des balcons de fer forgé, le style du mobilier urbain. Le style Napoléon III est un mélange foutraque de gothique pour Sainte-Clotilde, de byzantin pour Saint-Augustin, de roman pour la synagogue de la rue de la Victoire, de renaissance pour Saint-François-Xavier. L'accès à une eau potable de qualité tirée du Surmelin, de la Duisse et de la Vanne et la construction d'un aqueduc vont y pourvoir. Ajoutons l'aménagement des buttes Chaumont, du parc Montsouris, du bois de Vincennes et les égouts pour évacuer les eaux usées et dont les 600 km se visitent comme une curiosité. Et puis, il y a ce projet non abouti, celui d'un cimetière géant de 1200 hectares du côté de Pontoise, vers lequel les convois funéraires se rendront par voie ferrée, tandis que le sol sableux favorisera la décomposition des corps. Mais l'opinion s'y oppose et Haussmann range le projet dans les cartons. En parallèle à ces visions urbaines, il y a le souci de faciliter un maintien de l'ordre en rendant possible la démolition d'éventuelles barricades par des batteries de canons dont la largeur des avenues autorise l'usage. Et bien sûr, la vision haussmannienne d'un Paris dédié au luxe ne peut supporter la coexistence de la bourgeoisie et des masses grossières et stupides d'ouvriers à marteau, ainsi que le préfet l'a écrit. Dans le cadre prestigieux d'un Paris rénové, l'empereur va multiplier les fêtes somptueuses. Ainsi, le mariage avec Eugénie va se tenir à Notre-Dame, que le couple gagne en passant par la rue de Rivoli. L'empereur a tapé dans sa cassette personnelle pour les festivités. Il a signé 3000 grâces pour témoigner de sa mansuétude. Et son épouse fera don à un orphelinat de jeune fille d'une parure de diamant de 600 000 francs qu'elle a reçue en cadeau de la ville. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, le Paris de Napoléon III brille de 1000 feux. L'Empire change le pays à grande vitesse et la France devient une puissance moderne. C'est ce que nous découvrirons lors de notre prochaine rencontre.
Toujours quand aux matins obscènes, entre les jambes de la Seine, comme une noyée aux yeux fous. De la brume de vos poèmes, l'île Saint-Louis se lève blême, Baudelaire, je pense à vous. Lorsque j'appris à voir les choses, aux lenteurs des métamorphoses, c'est votre Paris que je vis. Il fallait pour que Paris change, que me bleuissent les oranges, toute la longueur de ma vie. Mais pour courir ses aventures, la ville a jeté sa ceinture de murs d'herbe verte et de vent. Elle a fardé son paysage comme une fille son visage pour séduire un nouvel amant. Rien n'est plus à la même place et l'eau des fontaines Wallace pleure après le marchand d'oubli qui criait le plaisir, mesdames, quand les pianos faisaient des gammes dans les salons à panoplie. Où sont les grandes tapissières, les mirlitons dans la poussière, où sont les noces en chanson? Où sont les mules de Réjeanne? On ne s'en va plus à dos d'âne, dîner dans l'herbe à Robinson. Qu'est-ce que cela peut te faire? On ne choisit pas son enfer. En arrière, à quoi bon chercher? qu'autrefois, sans toi se consume. C'est ici que ton sort s'allume, on ne choisit pas son budget. Tes pas, les nuages bougent. Va-t'en dans la rue à l'œil rouge. Le monde saigne devant toi. Tu marches dans un jour barbare. Le temps présent brûle au snack bar. Son aube pourpre est sur les toits. Au diable la beauté lunaire et les ténèbres millénaires. Plein feu dans les Champs-Élysées. Voici le nouveau carnaval où l'électricité ravale les édifices embrasés. Plein feu sur l'homme et sur la femme, sur le Louvre et sur Notre-Dame, du Sacré-Cœur au Panthéon. Plein feu de la Concorde au Terne, plein feu sur l'univers moderne, plein feu sur notre âme au néon. Plein feu sur la noirceur des songes, plein feu sur les arts du mensonge, flambe perpétuelle été, flambe de notre flamme humaine, et que partout nos mains ramènent le soleil de la vérité.